J'aimerais qu'on parle un petit peu ensemble de l'excellence. 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 Ça va être un bon sujet, je crois. Ça fait partie des valeurs du royaume de Dieu. Et si c'est une valeur du royaume, c'est une valeur des enfants de Dieu. Et c'est une valeur du centre Zoé aussi. L'excellence. On veut être excellent. Hein? L'excellence. Alors c'est quoi l'excellence? Juste une définition. Eh bien, l'excellence, c'est un degré éminent de perfection. Ça, c'est une définition du dictionnaire. Hein. Un degré éminent de perfection. Donc, c'est un haut degré, si vous voulez, de perfection. L'excellence, bah, c'est la caractéristique de ceux qui excellent, bien sûr, de ceux qui brillent, de ceux qui se démarquent, ou de ceux qui est supérieur. C'est quelque chose qui est parfait et qui surpasse tout. Hein, l'excellence, quand on dit que quelque chose est excellent, c'est que ça surpasse le reste. Il y a également cette définition qui dit qu'il est super, quelque chose de supérieur dans son genre. C'est-à-dire que parmi les choses semblables, ce qui est excellent, c'est quelque chose qui est supérieur à tout le reste. Et c'est plus que la moyenne, on peut dire aussi. C'est quelque chose qui se démarque, qui est plus élevé, qui est plus grand, qui est supérieur. Dieu nous appelle à l'excellence. Dieu nous appelle à être des gens qui nous démarquons, qui sommes supérieurs, qui dépassons la moyenne. Vous savez, quand vous êtes à l'école, quand vous avez la moyenne, bon, c'est moyen, c'est pour ça qu'on appelle ça une moyenne, mais quand vous avez un 5 sur 10, on va juste vous dire c'est moyen. Quand vous avez un 6 ou un 7, on va dire c'est assez bien. Quand vous avez un 8 ou un 9, on va dire c'est très bien. Mais quand vous avez un 10 et même un 10 plus, on va vous dire excellent. Bon travail, c'est bien joué. Et nous devons désirer et rechercher l'excellence. Nous devons désirer et rechercher les 10 sur 10 et les 20 sur 20. Et pas se contenter d'un 5 sur 10 en disant « Oh, je suis dans la moyenne ». Dans notre manière de fonctionner avec Dieu, mais aussi dans notre vie quotidienne. Est-ce que je me contente d'être moyen ou bien est-ce que je cherche l'excellence dans ce que je fais? Est-ce que je me contente d'être juste parce que bah voilà, les autres font comme ça, donc je suis sur le même niveau, donc c'est bon, je me contente? Ou est-ce que je cherche à être excellent? Les synonymes de l'excellence, c'est la perfection, mais on peut aussi trouver la sainteté, la gloire, la qualité, la supériorité, la beauté, la magnificence. Donc dans la parole, hein, on n'a pas très souvent, il y a de temps en temps le mot excellence, mais ce qu'il y a comme mot qu'on peut y comparer ou qui soit synonyme dans la parole quand il est question de sainteté, il est question d'excellence. Je rappelle que le mot saint, ça veut dire mis à part, donc qui se démarque, qui n'est pas juste au milieu du lot, mais qui se distingue. Donc sainteté, c'est aussi de l'excellence. La gloire de Dieu, c'est de l'excellence. Quand vous regardez dans la parole et qu'il est dit que la gloire de Dieu se manifeste quelque part, ou quand il est dit que le temple ou autre devait être fait d'une certaine façon, ce sont des choses qui reflètent l'excellence. La gloire de Dieu, c'est l'excellence. Et l'excellence dans nos vies glorifie Dieu et va aussi refléter cette gloire de Dieu que nous pouvons expérimenter et va amener la gloire de Dieu à se manifester. Vous savez, Dieu n'aime pas trop mettre sa gloire dans des petits trucs bricolés. Je vous rappelle, on avait fait une série d'enseignements, donc je ne vais pas revenir dessus, que j'avais intitulé « Qualifié pour la gloire ». On avait vu qu'il y a certaines choses que Dieu attend de nous. Il ne demande pas des choses impossibles, mais Dieu ne se contente pas d'un petit peu, d'un petit bricolage. Vous limitez l'action de Dieu. Si vous voulez une plénitude de la gloire de Dieu, il nous faut aussi poser les conditions, poser le bon contexte pour que sa gloire puisse descendre, qu'elle puisse descendre. Maintenant, l'excellence ne se mesure pas forcément par rapport à quelqu'un d'autre. L'excellence se mesure par rapport à tes capacités, tes possibilités, ton environnement. Dans un pays, par exemple, quelqu'un peut être excellent avec une petite maison, un petit coin avec peu de matériel et faire l'œuvre de Dieu excellemment. Et quelqu'un peut être dans un pays plus développé, soit en Europe ou aux États-Unis, avec 10 fois plus de matériel, d'équipement et de valeur, et ne pas être excellent parce qu'il n'est pas allé au bout de ce qu'il pouvait faire. L'excellence, c'est aller au bout, au maximum. C'est toujours chercher une progression, faire le mieux possible, chercher le plus haut niveau. Ça, c'est l'excellence. Et l'excellence s'oppose à la médiocrité. La médiocrité. La médiocrité, vous savez qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est de ne pas faire tout ce qu'on peut faire. C'est de ne pas aller au bout de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si je m'arrête en chemin, je suis médiocre. Même si je fais quelque chose de bien, si je m'arrête avant d'être arrivé au bout de ce que je suis capable de faire ou de ce que je peux atteindre, c'est de la médiocrité. Se satisfaire de moins que ce que Dieu t'a dit, c'est de la médiocrité. Se satisfaire de ne pas aller jusqu'au bout du rêve que Dieu met dans ton cœur, c'est de la médiocrité. Se satisfaire de ne pas aller jusqu'à la réalisation complète de ce que Dieu dit à ton sujet, c'est de la médiocrité. Et la religion nous a enseigné la médiocrité, et la pauvreté, et les impossibilités, et la faiblesse. Ça, c'est la religion, elle nous a appris tout ça, mais il faut se déreligioniser. Ça suffit, il faut dégager ça, c'est pas Dieu. Je vais vous montrer quelques passages, mais Dieu est excellent et il veut l'excellence pour ses enfants. Il n'y a pas de médiocrité. Jésus n'a pas fait à moitié son travail sur la terre. Il nous a montré un état d'esprit d'excellence. Il nous a montré un exemple d'excellence. Il a été jusqu'au bout de ce pourquoi il a été appelé par Dieu. Il a été faire tout ce qu'il avait à faire. Et Dieu lui-même, que ce soit dans la création, que ce soit dans la rédemption, Dieu ne nous a pas sauvés à moitié. Dieu nous a sauvés parfaitement. Dieu ne nous a pas guéri de certaines maladies et pas de certaines autres. Dieu s'est occupé de toutes les maladies. Dieu n'a pas pardonné certains péchés et pas certains autres. Dieu a pardonné tous les péchés, à l'exception d'un seul, hein, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit dont il est question, je n'ai pas développé ici. D'accord, mais tous nos autres péchés ont été effacés, ce qui fait que quand tu nais de nouveau, tu pars à zéro, tu es pur, saint, juste. Dieu n'a pas bricolé notre esprit à la nouvelle naissance, il a recréé notre esprit. Dieu n'a pas attendu qu'un jour passe, qu'un an passe, que deux ans passe, que trois ans passe pour se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire de sa vie. Avant la fondation du monde, Dieu avait planifié ta vie. Et jusqu'au bout. Et je vous rappelle entre autres qu'il y a un avenir et de l'espérance pour nous. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu ne se pose pas la question. Il a déjà tout fait, tout préparé, tout mis en place. Maintenant, c'est notre foi qui va nous y connecter. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je vais vous parler d'excellence. En passant, juste une autre définition de l'excellence. C'est aussi un titre qui est parfois utilisé, qui est une marque aussi de respect vis-à-vis de certaines positions, soit sociales ou autres. Des fois on peut dire son excellence le ministre, hein, des fois on entend ça, c'est plus un peu dans les pays africains, tout ça, on utilise plus ces choses-là, hein, ou des fois je reçois des emails de frères et sœurs africains qui m'écrivent excellent révérend pasteur Fabien Vigel. Mais quelque part, c'est bon, parce que ça veut dire je reconnais qu'il y a quelque chose en toi. Hein. Et si vous lisez même dans les évangiles, et les actes des apôtres, par exemple, ont été adressés à un certain excellent Théophile. Hein, donc ça, c'était juste un titre, une marque de respect. Ça ne veut pas forcément dire que la personne était excellente, mais n'empêche que c'était un titre ou une marque de respect. Alors, Dieu est pour l'excellence. Dieu est pour l'excellence. Si vous lisez la parole, vous verrez très régulièrement qu'il est dit que Dieu est saint et qu'il désire que son peuple aussi soit saint. Il est dit que Dieu nous a prédestinés, qu'il nous a appelés, qu'il nous a sanctifiés. Ça c'est Romains 8, ça veut dire mis à part. Si Dieu nous met à part, c'est pas pour être en dessous de tout le monde. Si Dieu nous met à part, c'est pas pour être les plus mauvais, les plus pauvres, les plus insignifiants. Si Dieu nous a mis à part, sanctifiés, sortis du monde, c'est pour que nous puissions être dans une position d'excellence, que nous puissions dépasser la moyenne, que nous puissions dépasser le commun des mortels, parce que nous sommes immortels. Voilà, Dieu veut que nous puissions nous démarquer. Donc quand il est question de sainteté dans la parole, ça veut dire je vous mets à part, et si je vous mets à part, c'est parce que je veux que vous soyez au-dessus, que vous sortiez du lot, que vous soyez supérieur, que vous ayez une qualité de vie nettement plus élevée que ce que vous auriez si vous n'étiez pas en Christ. Hein, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous mettre dans un petit truc religieux pauvre où on est là tourné en rond et où notre vie ne porte pas de fruit. D'ailleurs, il nous demande de porter du fruit, il veut du résultat. Dans Hébreux chapitre 1 verset 4, il est parlé de Jésus et il est dit qu'il est devenu supérieur aux anges et il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc Jésus a été élevé au-dessus des anges et son nom est plus excellent. Et je vous rappelle que nous sommes appelés à être semblables à Jésus. Donc nous avons une position plus excellente que les anges. Nous avons une position meilleure, supérieure, plus élevée que les anges. Et Jésus lui-même donc se montre, se révèle comme excellent, avec un nom excellent. Et je vous rappelle que ce nom, il nous l'a donné. Hein, il nous a laissé son nom, l'autorité qui va avec son nom. La parole nous montre également dans Hébreux 7, 22 que Jésus a inauguré pour nous une alliance, comment ? Plus excellente que la précédente. C'est-à-dire que Christ, par son œuvre, nous donne accès à une dimension et à des ressources d'excellence. Des choses excellentes, même plus excellentes que ce que nous pouvons voir avant l'œuvre de Christ. Il est dit là, Jésus, par cela même, est le garant d'une alliance plus excellente. Donc nous avons une alliance meilleure, une alliance excellente avec lui. On peut regarder aussi dans Daniel, au chapitre 6, donc c'est quelqu'un de l'Ancien Testament. Daniel, au chapitre 6 et au verset 3. Je rappelle que Daniel avait été recruté, entre guillemets, avec quelques jeunes hommes pour être au service du roi. Et plusieurs fois, ils se sont démarqués parce qu'ils ont refusé, par exemple, de se souiller avec les mets du roi. Donc, ils ont eu un régime différent. Mais ils ont dit qu'ils sont sortis en meilleur état, avec une meilleure figure que les autres. Et plusieurs fois, Daniel s'est démarqué par sa sagesse et sa capacité à interpréter les rêves, et des choses comme ça. Et il nous est dit là, dans Daniel 6... verset 3, que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout son royaume. Donc on voit que Daniel, par exemple, ici, il surpassait tous les autres chefs et les satrapes. C'est-à-dire qu'il était plus excellent que tout le monde. Il se démarquait et il avait en lui quoi ? Un esprit supérieur. Remarquez que esprit est écrit avec une minuscule. Donc c'est pas qu'il avait en lui le Saint-Esprit, parce que d'ailleurs sous l'Ancien Testament, je vous rappelle que les gens n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, ça c'est réservé à la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes, mais il avait un esprit, c'est-à-dire un état d'esprit, c'est-à-dire une mentalité supérieure. Et où est-ce que Daniel a pris cet état d'esprit, cette mentalité ? Il l'a prise auprès de Dieu lui-même. Donc Daniel, il démontrait un état d'esprit, une mentalité conforme au royaume de Dieu, qui faisait qu'il se démarquait. Parce qu'il ne raisonnait pas simplement comme les autres, et parce qu'il, dans ce qu'il faisait, il le faisait avec excellence, avec supériorité. Son service au roi était excellent, était supérieur. Il recherchait la qualité. Il faisait les choses le mieux qu'elles pouvaient être faites, et ça fait qu'il se démarquait. Donc Daniel est un exemple pour l'excellence. Et on peut avoir plusieurs passages dans les Écritures où il nous est dit, par exemple, ce passage que vous connaissez maintenant parce que je vous mitraille avec ça très régulièrement, mais Josué 1:8 qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que quoi ? Que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Est-ce que c'est pas l'excellence de réussir dans toutes mes entreprises ? Est-ce que c'est pas l'excellence d'avoir du succès dans tout ce que je fais ? Et je vous rappelle, en parallèle, on a le psaume 1 qui reprend cette vérité qui nous dit « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel », c'est-à-dire dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et ensuite, il est dit que tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alors, je ne vais pas m'avancer sur le séminaire qui nous attend dans quelques jours, mais n'empêche que c'est une marque d'excellence. Tout ce que vous faites vous réussit, mais pourquoi ? Parce que vous vous appuyez sur la parole de Dieu, c'est-à-dire parce que vous adoptez la mentalité du royaume de Dieu. Et quand vous le faites, ce que vous faites est excellent, vous avez du succès, vous réussissez, vous vous démarquez, vous glorifiez Dieu parce que vous êtes le reflet de sa gloire là où vous êtes, avec un esprit d'excellence, d'excellence. Et d'ailleurs souvent ça peut inspirer des gens aussi à devenir excellents. Il y a deux réactions. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais toi, tu es toujours en train de faire le... » Je sais pas quel mot utiliser qui soit un peu poli pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'expressions un peu bizarres, mais... Enfin, comme si c'est juste parce qu'on veut plaire à une personne, donc on est toujours là à essayer de bien faire. Alors, on va vous reprocher ça, dire « Ouais, mais toi, tu es un faillot, un... » Enfin, des mots comme ça. C'est-à-dire que tu es toujours là à essayer de bien faire, pour te faire bien voir, pour bien faire, quoi. Oui, on peut dire aussi éventuellement un arriviste, mais celui qui veut juste faire... Mais... C'est pas grave que les gens pensent ça de vous. Vous voulez bien faire et vous voulez établir l'excellence de Dieu dans tout ce que vous faites. Vous voulez mettre un standard élevé, et ça c'est important. C'est important. Et il y a d'autres gens qui vont vous voir et qui vont dire tiens, mais lui il est excellent dans ce qu'il fait. Il est sérieux, il est au carré, il pose des actes, il fait des choses qui sont excellentes. J'ai envie d'être comme lui. Il y a les deux. Il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, mais toi, c'est juste pour te faire voir. » Mais ce qui compte, c'est votre cœur. Et il y en a d'autres qui vont dire, mais moi j'ai envie aussi d'être comme ça, j'ai besoin de cet équilibre-là, j'ai besoin de cette stabilité dans ma vie. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques aspects, quelques points sur l'excellence en action. Qu'est-ce que c'est que l'excellence, comment elle fonctionne? Alors le premier point, c'est la consécration. La consécration. Si vous voulez être excellent, il faut commencer par faire preuve de consécration. Consécration. La consécration, ça veut dire je me donne. Alors évidemment pour nous, je me donne à Dieu, je me consacre à Dieu. Je m'offre à lui et je prends une décision de qualité. C'est-à-dire que je me consacre à un projet, à une vie, à un état d'esprit d'excellence. Je décide que dorénavant c'est ce que j'adopte et je m'y consacre. Se consacrer à quelque chose, des fois les gens peuvent même utiliser ce mot pour un loisir ou pour un travail. Quand tu te consacres à quelque chose, ça veut dire je m'y investis, je m'y attache, je m'y mets, je prends une décision qui fait que tout mon être et mon existence va être tourné vers cet objectif et vers ce but. Je me consacre. Et la consécration, c'est un engagement qui va demeurer quels que soient les obstacles ou les circonstances. Quand on est consacré à quelque chose, il peut arriver tout et n'importe quoi. Je demeure parce que je me suis consacré pour ça. Par contre, quand on fait juste quelque chose comme ça, un petit peu à la légère, au moindre obstacle, à la moindre difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On se rétracte. On arrête, on laisse. Mais nous sommes appelés à nous consacrer réellement. Et la parole nous exhorte évidemment à nous consacrer à Dieu. Romains 12 par exemple, chapitre 1er, qui dit « Offrez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. » Donc la première étape, si nous voulons être dans l'excellence, alors bien sûr qu'on pourrait, mais on est chrétien, donc je fais un enseignement chrétien, on pourrait faire un développement tout à fait entre guillemets laïque ou général et dire voilà, pour être excellent il faut faire telle et telle chose, mais vous ne serez jamais excellent au niveau auquel vous pouvez le devenir autrement qu'en Christ. Autrement qu'en naissant de nouveau, en étant renouvelé par lui et en vous consacrant à lui. Quelqu'un peut faire tous ses efforts pour être excellent, il va toujours faillir, il va toujours tomber sur des faiblesses. Vous pouvez regarder autour de vous, il y a des gens qu'on peut citer comme ayant des attitudes excellentes. On peut montrer des chefs d'entreprise, des patrons ou même des gens qui ont certaines philosophies. On dit, lui il est excellent dans ce qu'il fait. Mais tous, sans exception, tôt ou tard, ils faillissent quelque part. Ou alors ils vous cachent les failles. Donc c'est pas excellent non plus. Il y a une apparence, mais derrière il y a des choses qui ne tiennent pas. Et des fois c'est comme ça qu'on entend des scandales. En disant, tiens, mais lui il était à la tête d'un empire financier par exemple, et au bout de quelques années ou même parfois des dizaines d'années, on dit ouais, mais tous les trafics qu'il y avait là-dedans, tout l'argent qui a été détourné. Donc on avait l'impression qu'ils étaient excellents, mais en fait ils étaient pourris. Mais nous sommes appelés à être excellents en apparence, mais aussi en vérité. D'une vraie excellence, d'une œuvre qui, comme la parole dit, peut être éprouvée par le feu et qui va demeurer. Parce que c'est pas du bois et de la paille, mais on construit avec des métaux précieux. On construit avec de l'or, on construit avec de l'argent, on construit avec des pierres précieuses. Et ça, ce sont les ressources du royaume de Dieu. Donc, nous sommes appelés à être excellents. Donc, commencez par nous consacrer. On peut aussi regarder 1 Pierre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Et au verset 6. Une grande clé. 1 Pierre 5, verset 6. Tu sais, des fois, quand on dit aux gens, faut être excellent, ils commencent à se monter la tête. À dire, ça y est, je suis. Je vais faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Quelle est la première étape? 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Afin quoi? Qu'il vous élève au temps convenable. Donc, si tu veux marcher dans l'excellence, c'est qui va t'amener à être élevé, puisque excellence est supérieur, c'est plus élevé, c'est plus haut. Qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? S'humilier sous la main de Dieu. C'est-à-dire, je viens devant le Seigneur, je m'abandonne, je dis, ok Seigneur, je me mets sous ta main, je me mets sous toi. C'est en toi mes ressources, c'est toi ma référence, et je m'abandonne à toi. Je ne veux pas le faire par moi-même, je me soumets, et qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même va vous élever au temps convenable. Donc ça, c'est le premier point, la consécration. Un deuxième point, toujours un peu dans le même état d'esprit, mais c'est défaites-vous de l'influence du monde. Défaites-vous de l'influence du monde. Si vous voulez être excellent, il faut vous détacher de la pensée du monde. Il faut vous détacher des systèmes de pensée. Vous savez, les gens dans le monde, on a quelqu'un que vous connaissez bien qui a dit « travaillez plus pour gagner plus ». Mais en réalité, dans l'esprit, dans la tête des gens dans ce monde, c'est « travailler toujours moins, mais gagner plus ». On aime bien travailler un peu moins et travailler au ralenti, mais avoir plus. Et moi, j'entends régulièrement, hein, dans le cadre de mon travail, des gens, ils traînent la patte tout le temps, mais ils veulent toujours plus. Ils veulent toujours plus. Ça fonctionne pas. Hein. C'est la pensée du monde et il faut couper avec ça. Il faut arrêter avec ça. Hein. Il faut laisser la pensée du monde, l'influence du monde de côté pour adopter la pensée de Dieu. Alors Jean 17, par exemple, Jésus prie. Jean 17. Vous savez, la Bible nous montre, hein, ce qu'un homme sème, il le récolte. Et celui qui sème peu, récolte comment ? Peu. Et celui qui sème abondamment, récolte abondamment. C'est vrai dans tous les domaines. Hein. Tout ce que nous faisons, c'est une semence. Si tu travailles un petit peu, tu vas gagner un petit peu de résultat. Si tu travailles abondamment, tu auras un résultat abondant. C'est simple. Vous savez, avec Dieu, les choses sont très simples. Très simples. Hein. C'est juste nous qui souvent aimons bien compliquer tout ça. Jean 17, verset 16, Jésus prie et il dit « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. » Ta parole est la vérité. Donc là, Jésus prie le Père en disant, mes enfants, mes disciples, c'est-à-dire vous et moi aujourd'hui, ne sont pas du monde, alors sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu va avoir cette œuvre de sanctification dans notre vie et va nous mettre à part pour Dieu, nous mettre à part pour ne pas être sous la dépendance ou l'influence du monde. On va également regarder dans la première épître de Jean, 1 Jean 2 au verset 15, il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui, vous voyez ça, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc nous ne devons pas aimer le monde et la façon de fonctionner du monde, nous devons épouser la pensée de Dieu, faire la volonté de Dieu et nous allons demeurer éternellement. Nous-mêmes, mais aussi ce que nous allons faire, ce que nous allons produire, nous allons porter un fruit éternel. Un fruit éternel. Ça, il y a beaucoup de gens qui veulent laisser une trace, hein, dans le monde. Alors ils écrivent un livre, ou bien ils font, ils font un film, ou bien ils accomplissent un acte héroïque. Et disent, je laisse une trace, je veux laisser une trace. Mais nous pouvons laisser une trace éternelle par notre vie, qui soit remplie d'excellence, qui ait des standards élevés et qui soit conforme à la pensée, à la volonté de Dieu. Une autre chose encore, c'est encore toujours les premiers pas, mais déchargez-vous de vos soucis. Si vous voulez être excellent, il faut apprendre à vous décharger de vos soucis, sinon vous n'y arriverez pas. Parce que vos soucis et les circonstances vont régulièrement vous amener à vous dire, ouais mais... j'ai trop de problèmes, ou bien j'ai trop de choses, c'est trop lourd, je peux pas monter plus haut là. Et quand le Seigneur va te dire, bon, il y a un niveau supérieur là, dans ta démarche vers l'excellence, eh bien ton fardeau sera tellement lourd que tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, mais il a déjà pris le fardeau. Le tout, c'est que tu dois choisir, décider de t'en décharger et de le déposer par la foi. Alors on peut lire pour ça, par exemple, 1 Pierre 5, et au verset 7, donc on a vu qu'il fallait s'humilier sous la puissante main de Dieu. Et juste après, il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Donc si vous voulez être excellent, il faut aussi apprendre à vous décharger de vos soucis. C'est-à-dire que quand les soucis arrivent, tu les acceptes pas, tu les refuses, tu les déposes. Si ça, Jésus l'a déjà pris, j'ai pas à le porter. Parce que si tu les portes, eh ben, ça va s'accumuler, tu vas avoir un gros backpack là sur le dos et tu pourras pas monter là où tu dois monter. Tu sais, les gens qui font de l'escalade ou les gens qui veulent gravir des sommets, tout ça, ils y vont avec pas grand-chose. Ils essaient d'être légers. Si vous avez un gros sac, ça va être compliqué. Donc, il faut apprendre à s'alléger, à se décharger. Maintenant, une autre chose, pour une démarche d'excellence, vous avez besoin de détermination et de constance. Donc, ça va un peu avec la consécration, mais consécration, c'est-à-dire je prends la décision et je m'y consacre. Je décide que désormais, c'est ça. Maintenant que je m'y suis consacré, je dois être déterminé. C'est-à-dire que je ne me laisse pas détourner de ma pensée, de mon projet, de mon objectif. Et la constance, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui ne connaît pas de variation. Je suis constant. C'est pas aujourd'hui, je veux être excellent et demain j'accepte la médiocrité. Et après demain j'essaye de remonter un petit peu et le jour d'après je retombe dans la médiocrité. Quand vous avez décidé, quand vous êtes consacré pour l'excellence, il vous faut aussi être constant. C'est-à-dire désormais c'est l'excellence tout le temps. Je ne me permets plus de redescendre et de remonter, je garde le standard. Je garde le standard. Alors pour ça, on peut regarder l'épître de Jacques. Jacques, au chapitre 1er, au verset 5. Il est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez, quelqu'un qui est inconstant, c'est exactement le contraire de ce que nous devrions être, ou qui est irrésolu, bah, c'est quelqu'un qui est comme ça. Il est ballotté, un coup il va par-ci, un coup il va par-là, il se laisse aller au gré des influences, au gré des circonstances, au gré de ce qu'il entend, et c'est pas bon. Tu pourras pas marcher dans l'excellence si tu es irrésolu. Et d'ailleurs, ce terme ici, dans le grec, qui est rendu par irrésolu, ça veut dire quelqu'un qui a deux personnalités. C'est-à-dire que d'un côté, tu veux être excellent, mais de l'autre côté aussi, tu acceptes d'être médiocre. Et à un moment donné, ça va créer un conflit. Et il y a un problème psychologique qui s'appelle la schizophrénie et qui peut amener des gens dans des situations graves. Et parfois même, on est obligé de les interner parce que un coup, ils font quelque chose, c'est pas la même personne quasiment. Alors, c'est un gros problème. Et Dieu te dit, mais si tu es irrésolu, si tu n'es pas stable, voilà comment tu es. Tu es ballotté comme ça sur le flot de la mer. Tu vas au gré des choses et c'est pas une bonne chose. Tu peux pas. Si donc tu veux marcher dans l'excellence, il te faut être déterminé et constant. Constant, c'est-à-dire je suis déterminé, je n'en démords pas. Hein, je persévère dans ça, je ne lâcherai pas. Une autre clé pour marcher dans l'excellence, c'est se concentrer sur ce que Dieu vous a dit. Se concentrer sur ce que Dieu vous a dit. Alors d'une part, bien sûr, se concentrer sur ce que Dieu me dit à mon sujet, hein, pour rester au niveau où il m'a placé, où il m'a établi, pour rester en conformité avec la position qu'il m'a donnée. Ça, c'est une chose, elle est bien sûr cruciale et indispensable, mais à côté de ça aussi, me concentrer sur ce que Dieu me dit ou sur ce que Dieu me demande de faire. Vous savez, il y a des gens qui essayent de faire plein de choses. Et donc ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et quand vous regardez, vous les voyez partout. Ils font ceci, ils font cela, ils font telle autre chose, ils font telle autre chose. Mais en fait, ils font tellement de choses, mais aucune chose n'est bien faite. Tout est un petit peu entamé, tout est fait un petit peu à peu près, mais rien n'est bien fait. Rien n'est bien fait, pourquoi ? Parce que Dieu nous appelle à l'excellence dans tout ce que nous entreprenons, mais ce que nous entreprenons à partir d'une parole qu'il nous donne. Hein, Dieu ne dit pas qu'on réussirait dans tout ce qu'on ferait si on se met à faire 50 000 trucs comme ça. Dieu nous fait réussir dans ce qu'on fait lorsqu'il nous parle et nous envoie et dit « Maintenant tu fais ça, là tu es excellent. » Mais le problème c'est que souvent Dieu nous dit quelque chose mais je ne sais pas si ça ne suffit pas ou je ne sais pas, ou si on a besoin de faire plein de trucs. Ou alors on ne prend pas le temps de savoir ce que Dieu nous demande et on essaye tout ce qu'on peut faire. Et le problème c'est que nulle part on ne le fait vraiment bien. Et malheureusement parfois ça peut créer du tort. Mais si nous voulons être excellents, il nous faut nous concentrer sur ce que Dieu nous a dit. C'est-à-dire, tu fais ce qu'il te dit. Hein, je vous rappelle Éphésiens 2:10 qui dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance pour que nous les pratiquions. Si tu veux être excellent, il te faut entrer dans les œuvres bonnes préparées d'avance pour que tu les pratiques. Et soyez libérés de ça, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Faites ce qu'il vous a dit. Ce sera déjà très bien. Ah, très très bien. Et s'il vous semble que c'est pas beaucoup, soyez fidèles, soyez excellents, ça ouvrira la porte pour d'autres choses. Hein? Mais en tout cas, concentrez-vous sur les œuvres bonnes préparées d'avance pour vous. Vous y serez excellents. Quand Dieu dit qu'il les a préparées, ça veut dire qu'il a disposé les circonstances, ça veut dire qu'il vous a donné les ressources, qu'elles sont disponibles, et qu'il vous suffit d'y entrer. Donc vous serez excellents, puisque tout est déjà préparé, c'est disponible. Mais si quelque chose n'a pas été préparé, vous allez essayer par vos propres forces et vous allez vous épuiser et vous aurez du mal à être excellent. Ah non, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, mais concentrez-vous sur ce que Dieu vous a dit, ce qu'il vous a demandé. Je rappelle également Romains 8, verset 14, qui est une clé pour entrer dans ces œuvres bonnes, qui dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Comment on fait pour entrer dans les œuvres bonnes préparées ? Eh bien, on écoute la direction de l'Esprit de Dieu. On écoute ce qu'il dit dans notre esprit. Romains 8, 16. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, oui, mais aussi de tout le reste. Et Jésus l'avait annoncé, si vous lisez les évangiles de Jean par exemple, il dira, mais quand il sera venu, Jean 16, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans les choses que vous devez faire, il vous fera connaître les choses que vous devez connaître, etc. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire, nous diriger. Donc si nous voulons être excellents dans ce que nous faisons, faisons ce que Dieu nous dit et faisons-le sur direction de l'Esprit. Donc concentrez-vous sur ce que Dieu vous a dit. Une autre chose pour être excellent, c'est de pratiquer la parole, bien sûr. Hein. C'était déjà un peu entre les lignes, mais c'est bien de le préciser, pratiquer la parole. Donc faites ce qu'il vous dit directement pour votre vie, ok, mais aussi faites ce qu'il vous dit dans sa parole, pratiquez sa parole, hein, pratiquez ses ordonnances, pratiquez ce qu'il dit, et aussi déclarez-la. Ça va vous rendre excellent, excellent. Vous savez, la Bible, elle contient des principes excellents, d'un royaume excellent. Donc si vous voulez être excellent, qu'est-ce que vous faites? Vous allez puiser ici. Si vous voulez réussir un bon gâteau, et que pour l'instant vous n'avez pas les capacités ni la connaissance, vous allez où? Vous allez dans un excellent livre de cuisine. Vous n'allez pas non plus piocher ça n'importe où ou demander à quelqu'un qui n'y connaît rien. Vous allez dans un livre qui est une référence et qui est excellent pour ça. Et aujourd'hui, avec la modernité, il y a des sites internet qui vous mettent des recettes. Et ce qui est très bien, c'est qu'en plus, les gens peuvent voter et mettre un commentaire. Et une étoile, c'est pas très bon. Deux étoiles, ça passe. Trois étoiles, c'est pas mal. Quatre étoiles, c'est bien. Et cinq étoiles, c'est excellent. Donc vous allez chercher aussi à partir des votes, c'est-à-dire quel gâteau qui est excellent. Mais oui, mais ici vous avez quelque chose d'excellent qui est totalement approuvé par Dieu. Il y a 5 étoiles sur chaque page, sans problème, sans problème. Donc vous voulez faire quelque chose d'excellent, allez prendre la recette excellente, elle est là, elle est entre vos mains. Elle est entre vos mains, allez épuiser et pratiquez-la. Pratiquez-la. Un autre point pour marcher dans l'excellence, c'est de marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. 1 Corinthiens 12, en verset 31. Ça va être excellent, réussir dans ce qu'on entreprend, tout ça, c'est un excellent désir, puisque Dieu nous demande de le faire, mais ça ne doit pas se faire dans une espèce de compétition, comme la pensée du monde. Oui, je suis en course, oui, je suis en compétition avec moi-même, parce que je veux me dépasser pour entrer dans ce que Dieu m'a dit. Paul lui-même dira qu'il est comme un athlète dans une course, mais je ne suis pas en compétition avec les autres. Je ne suis pas en compétition avec les autres enfants de Dieu, je ne joue pas des coudes, quitte à donner un petit coup par-ci, un petit coup par-là, pour que moi je sois plus excellent. Mon excellence va aussi amener les gens autour de moi à être excellents. Et quand je favorise l'excellence de ceux qui m'entourent, moi-même je grandis dans l'excellence. Donc ici il nous est dit dans 1 Corinthiens 12, 31, bon il est question des dons spirituels, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs et... » Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? Quand je parlerai de langue de gens, etc. Mais ensuite, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc l'amour ici est qualifié comme étant une voie par excellence. Autrement dit, on peut dire que c'est le chemin de l'excellence. Si je veux être excellent, je dois aussi exceller dans l'amour. Je dois apprendre à manifester l'amour, je dois apprendre à laisser l'amour de Dieu qui a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, c'est Romains 5, 5, qui dit que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Donc je dois laisser cet amour s'exprimer excellemment. D'accord ? Ma recherche de l'excellence ne doit pas nuire aux personnes qui sont autour de moi. Ma recherche de l'excellence doit se faire dans l'amour, puisque l'amour est qualifié comme une voie d'excellence. Une autre chose pour marcher dans l'excellence, c'est de faire, entre guillemets, un sacrifice excellent. Faire un sacrifice excellent. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, premièrement, on l'a vu dans la consécration, c'est de s'offrir soi-même à Dieu. Je vous rappelle Romains 12, 1er, et qui dit qu'un tel sacrifice, c'est quelque chose de raisonnable. Mais quand il dit raisonnable, ça veut dire en fait c'est quelque chose de bon, d'agréable et parfait. Quelque chose d'excellent. Donc je m'offre moi-même à Dieu, mais on a aussi... une remarque qu'on peut voir dans Malachie au chapitre 1er. Malachie au chapitre 1er, au verset 6. Donc bon, Dieu est obligé d'un petit peu tirer les bretelles au sacrificateur. Hein. Mais ça peut nous être salutaire aussi. Et il dit, Malachie 1, 6, « Un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ?» Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Et quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Et te fera-t-il accueil, dit l'Éternel des armées. Donc là, Dieu a dû reprocher aux sacrificateurs qu'ils offraient n'importe quoi. Donc, ok, Dieu leur a dit faire des offrandes, ils ont obéi, ils ont fait des offrandes, mais ils ont fait des offrandes médiocres. Ils n'ont pas été au bout de ce que Dieu désirait, ils n'ont pas exprimé leur amour et leur consécration pour Dieu, ils ont fait quelque chose de médiocre. Ils ont donné, c'est vrai, mais ils ont donné un vieux truc. Vous savez, un enfant, si vous lui dites « fais tes devoirs », bah, il va faire ses devoirs. Mais il y a des fois des petits malins qui vont faire leurs devoirs, ils vont faire ça vite fait, bien fait, comme on dit, hein. Et après, si vous venez pour regarder, que vous voyez qu'il a fait n'importe quoi, hein, il ne s'est même pas posé la question, si c'est 4 plus 2 égale 6, il a mis partout n'importe quel chiffre, mais j'ai fait mes devoirs. Et quand vous lui dites, mais tu as fait n'importe quoi, il va dire, mais personne ne m'a dit qu'il fallait bien faire. On m'a juste dit de faire mes devoirs, j'ai fait mes devoirs. Et très souvent, on est comme ça, avec le Seigneur, ou même dans notre vie quotidienne. Il faut faire quelque chose, ok, je le fais, mais je ne le fais pas bien, je le fais juste parce qu'il faut le faire. Ça, c'est la médiocrité. Si je veux être excellent, je le fais et je le fais bien. Je m'y consacre, je m'y donne, je mets mes ressources et je le fais au mieux que je peux le faire et je vais ainsi aller sur la voie de la réussite. Hein? Donc, faire un sacrifice excellent. Et c'est vrai, même ici, il était question des sacrifices. Mais c'est même vrai dans notre manière de fonctionner. Quand il faut donner, est-ce que je donne un bouton de chemise parce qu'il faut donner, donc je donne? Ou est-ce que je fais un don excellent? C'est pas une histoire forcément de montant ou de truc, mais c'est de savoir, est-ce que mon don va exprimer mon amour pour Dieu, mon obéissance et ma reconnaissance, ou bien est-ce que je donne juste un truc parce qu'il faut donner? Si c'est ça, il vaut mieux ne pas donner. Il vaut mieux ne pas donner. Vous savez, je crois, c'est peut-être dangereux de dire ça, mais il vaut mieux ne pas faire certaines choses si c'est pas fait dans l'excellence. Il vaut mieux que tu ne donnes pas si tu ne le fais pas avec excellence. Il vaut mieux que tu ne cherches pas à servir Dieu si c'est pour le faire en dehors de l'excellence. Il vaut mieux ne pas le faire. On me dit, ouais, mais tu es dur là, tu dis qu'il faut... Non, si c'est pour le faire n'importe comment, ne le fais pas. Tu ne le ferais pas n'importe comment vis-à-vis d'un homme. Et là même, c'est ce que Dieu dit à ses sacrificateurs. Il dit, est-ce que tu donnerais ça à un gouverneur? La réponse, c'est non. Mais Dieu nous appelle à être excellents. Et moi, je veux être excellent et je veux que nous soyons des hommes et des femmes excellents dans tout ce que nous faisons. C'est vrai dans les choses de l'église, c'est vrai même dans ta vie quotidienne. Quand tu fais quelque chose, est-ce que tu le fais juste pour le faire ou est-ce que tu cherches à être excellent dans ce que tu fais? Même au travail, même dans nos relations, cherchons à être excellents. Faisons un sacrifice excellent. Donnons à Dieu quelque chose de bonne odeur. Oui, dans les choses spirituelles, mais oui aussi dans les choses pratiques de notre quotidien. Tu sais, c'est toute notre vie que nous consacrons à Dieu. C'est pas juste 2 heures le dimanche matin ou 2h30, petite heure dans la semaine. C'est toute ta vie. Donc toute ta vie, si tu dis je te donne ma vie comme un sacrifice, c'est-à-dire que peut-être que le sacrifice il est plutôt bon le dimanche parce que tu t'es préparé, il est peut-être bon un moment dans la semaine parce que tu mets ce temps à part pour le rencontrer, mais ce sacrifice doit être bon aussi tout le reste de la semaine. Tu vas pas donner un vieux sacrifice pendant la semaine et essayer d'en donner un bon pendant le week-end. C'est ma vie entière qui doit être un bon sacrifice, une bonne odeur pour l'Éternel. Vous savez, 2 Corinthiens 2, 14 dit que nous répandons en tout lieu la bonne odeur de Christ. Et que pour certains, c'est une odeur de vie, pour d'autres, c'est une odeur de mort. Mais faisons en sorte que ce qui émane de nous, ce soit une bonne odeur, la bonne odeur de Christ. Quand les gens vous voient, quand les gens nous voient fonctionner, que ce soit une bonne odeur, que ce soit une bonne nouvelle. Et lorsqu'on parle de nous, et là, ça résonne comme une bonne nouvelle pour les gens. On se dit, tiens, tu sais pas, Fabien, ah oui, Fabien, ah, c'est un gars bien celui-là. Que ce soit une bonne nouvelle, pas que lorsqu'on dit tiens, j'ai pas envie de citer quelqu'un là, et qu'on dise oh là là, alors lui, non merci, hein, surtout je veux pas avoir affaire à lui. Hein. Mais des fois, il y a des gens comme ça, on n'a pas envie d'avoir affaire à eux parce qu'on sait qu'ils sont pas excellents dans ce qu'ils font. Et des fois, même lorsqu'on travaille avec des entreprises ou des trucs, on se dit ah, mais eux, c'est même pas la peine, on sait déjà qu'ils seront en retard, que les choses ne seront pas livrées à temps, ils sont pas excellents, ça se sait ces choses-là. Et il y a d'autres avec lesquels on dit ça, c'est bon, je sais que c'est une référence, c'est bon, on va pouvoir faire du bon travail. Donc soyons des personnes qui soient connues et reconnues pour leur excellence, pour leur qualité. Et pas pour des gens instables, pas pour des gens moyens. Ne vous contentez pas d'être moyens. Soyons excellents. Soyons excellents dans ce que nous faisons. Vous savez, l'excellence, ce n'est pas une destination. L'excellence, c'est une démarche. L'excellence, c'est une démarche. Ça, c'est important à savoir. Parce que les choses sont illimitées avec Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire aujourd'hui, je fais mieux que l'année dernière. Je suis excellent. Mais l'excellence... c'est pas être quelque part. L'excellence, c'est une démarche. C'est-à-dire que à chaque fois, dans tout ce que je fais mieux que je ne faisais auparavant, mais je continue de me porter vers quelque chose d'encore mieux. Parce que la Bible nous montre qu'on peut progresser et progresser et progresser, progresser, et c'est illimité parce que nous devons atteindre un certain modèle et un certain standard. Et on va y arriver, mais il y a une progression. Il y a une progression. Je vais vous montrer ça, notamment dans Hébreux. Hébreux, chapitre 5. au verset 12, je crois qu'on en avait parlé un peu dans la comment avoir un esprit fort, qu'il fallait grandir, mais Hébreux 5, 12, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux va aussi devoir faire un reproche à ces gens-là et va leur dire, Hébreux 5, 12, vous qui devriez depuis longtemps être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu, et vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Donc là, il nous montre que normalement, vous auriez dû déjà être à un niveau plus élevé. Ah, donc il doit y avoir une progression. On doit être dans une position où on veut toujours avancer. Vous savez, une chose que j'aime beaucoup chez les premiers protestants, chez les réformateurs, c'est que leur mot d'ordre, c'était de se réformer continuellement. Alors, je ne sais pas s'ils ont tous réussi à le faire, mais n'empêche que c'était bien parti. Après, il faut faire attention de ne pas faire comme les Galates. Après avoir si bien commencé par l'esprit à ne pas tomber dans la chair. Mais c'est une bonne chose. Et je crois que nous devons désirer être dans cette démarche-là. Et dire, sur ce point-là, je dis, oui, je suis protestant, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que il faut continuellement se réformer. Pourquoi ? Parce qu'on progresse, et plus on progresse, plus Dieu ouvre des perspectives nouvelles auxquelles nous pouvons maintenant accéder, mais où nous ne pouvions pas accéder hier parce que nous n'étions pas en position, nous n'étions pas prêts. Donc il y a une réforme continuelle, constamment, accepter de se laisser renouveler, réformer, changer par Dieu pour aller toujours de plus en plus loin, de plus en plus haut et faire de mieux en mieux. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est de dire « je veux faire encore mieux ». Et quand je fais déjà mieux que ce que je faisais auparavant, mais je cherche encore à faire mieux et toujours mieux, à me perfectionner. Hein, on peut comparer ça aussi avec le perfectionnement. Donc il faut une progression dans les choses. Et vous savez, l'excellence va se manifester, c'est vrai, dans nos démarches pour réussir ou dans ce que nous posons comme acte, mais aussi dans nos comportements. Dans nos comportements. Hein, soyons excellents dans nos comportements et dans des choses très pratiques. Par exemple, d'être ponctuel. C'est un signe d'excellence. Quelqu'un qui arrive à l'heure, quand il a un rendez-vous, quand il va quelque part, c'est un signe d'excellence. De savoir que tu es ponctuel, tu es là, ça c'est de l'excellence. Il y a des gens qui vont dire que ouais, toi t'es trop germanique. Hein, tu peux pas comprendre qu'on puisse être en retard ou qu'on puisse faire les choses hors délai. Non, les germaniques pour ça, ils ont compris quelque chose de bon. C'est un signe d'excellence d'être ponctuel. C'est bien d'être ponctuel, d'être à l'heure, d'être dans les délais. Quand tu dis à quelqu'un je vais faire ça pour tel, eh ben ne pas le faire combien de temps après. Ou bien si tu peux pas, tu vas dire écoute j'ai pas pu, on va mettre tel autre délai. Ça c'est un signe d'excellence, c'est pour être ponctuel, d'avoir un comportement excellent. C'est-à-dire je me tiens bien, j'ai une bonne présentation aussi. Je dis pas qu'il faut devenir très superficiel, matérialiste ou extérieur, mais notre présentation aussi doit inspirer l'excellence. Qu'on puisse dire, mais tiens, lui ou elle, il est toujours bien habillé. Pas forcément des trucs extravagants, mais être propre sur soi, être habillé correctement quand vous allez quelque part, c'est un signe d'excellence. Et ça va inspirer quelque chose à la personne qui est en face de vous. Ah tiens, mais ouais. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui arrive, même sans aller très loin, mais voilà un bonhomme qui arrive, vous avez un rendez-vous un peu officiel avec lui, bah, qu'il arrive en chemise et pantalon, c'est quand même préférable et ça démontre une certaine excellence que si la personne vient en short, en tong et avec un t-shirt déchiré. Tu peux être habillé comme ça quand tu fais ton jardin, quand tu es à la maison, c'est pas le problème, mais savoir s'adapter à la situation et démontrer de l'excellence. Et les gens savent très bien sortir la chemise blanche quand il faut aller chez le banquier, hein, pour demander de l'argent. Là, il n'y a pas que pour aller chez le banquier, hein. Et nous-mêmes, bah, quand il est question des choses de Dieu, soyons excellents, même dans notre présentation, dans notre langage aussi. Je surveille la manière dont je parle, je suis excellent. J'évite d'avoir des écarts de langage, de dire n'importe quoi. Mais on recherche l'excellence. C'est dans plein de petites choses comme ça. Et encore, je mets petites choses entre guillemets, parce que c'est pas si petit que ça. C'est pas si petit que ça. Et c'est dans ces petites choses-là qu'on va faire la différence. C'est les petits détails qui font la différence. Ça, c'est aussi un de mes slogans, et même dans mon travail, je l'utilise. Des fois, j'ai envie de dire, oui, mais ça, bon, une petite étiquette un tout petit peu déchirée dans le coin, c'est pas ça qui va empêcher au client d'acheter le produit, peut-être, mais c'est le petit détail-là qui fait la différence. Moi, je veux l'excellence. Je veux l'excellence. Je veux l'excellence. Donc, dans les petites choses, je suis sérieux, j'ai une rigueur. Ou bien lorsque il y a quelque chose qui peut être fait, si je peux le faire, je vais aider, je veux être excellent, je veux saisir l'occasion d'aider, de faire quelque chose. Après, même dans les histoires d'équipement ou de matériel, en plus dans une question d'église peut-être, eh ben on peut chercher à être excellent, à avoir des bons équipements. On n'a pas besoin de prendre des choses démesurées, mais c'est bien d'avoir un son assez agréable, c'est bien de pouvoir afficher les chants et de faire des choses comme ça. C'est être excellent dans ces choses-là. Désirons être excellents. Alors, c'est une progression. Tous, dans, chacun dans ce qu'on fait, on progresse. Hein, même les gens qui sont au service dans l'église, et moi-même et les autres, on a besoin de progresser. Tous, c'est normal. Mais que notre désir, ce soit ça. Qu'on dise, non, on veut être excellent. On veut être excellent. Et moi, c'est ce que je veux qu'il y ait dans le cœur de chacun et chacune dans cette église aussi. Que lorsqu'on on est ici, dans tout ce qu'on fait, que dans notre cœur, on dise ce qu'on veut, c'est l'excellence. Et qu'on se mette d'accord pour ça. Et qu'on se satisfasse pas de moins que l'excellence. De dire, moi, je veux être excellent. Je vous avais donné cet exemple déjà, même pour l'Institut biblique. On aurait pu récupérer des tables par-ci, par-là et faire un truc. Mais dans mon cœur, si je veux que ce soit excellent. Des bonnes tables et des chaises qui vont avec et de faire quelque chose qui soit bien. Ça peut être des petites choses pour quelqu'un, ça peut être un détail, mais ça reflète notre désir d'excellence. Ça reflète le désir que d'être excellent dans ce que nous faisons pour permettre à l'excellence de Dieu de se manifester aussi. Hein, pour avoir une bénédiction avec excellence, pour avoir des miracles avec excellence, pour avoir des fruits avec excellence. Avec excellence. Je bénis Dieu parce que dans la prédication et l'enseignement, je vous assure que si je compare avec il y a plusieurs années et même il y a quelques années, merci Seigneur parce qu'on voit une progression. Dernièrement, j'ai écouté un message que j'avais prêché il y a quelques années et j'ai dit, ah merci Seigneur quand même, j'ai progressé. Hein, on est dans une démarche d'excellence. Et à l'époque, j'étais déjà dans la démarche d'excellence, mais je n'étais pas encore aussi bon qu'aujourd'hui. Et je sais que d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, je serai encore meilleur. Parce qu'on peut faire toujours mieux. On peut. Et dans mon cœur, je veux être excellent. Dieu nous dit d'être excellent dans tout ce qu'il nous a demandé. Vous savez que le bon pasteur, c'est pas celui qui essaye de tout faire parce qu'il n'aura jamais l'excellence dans son église. Parce qu'il ne peut pas tout bien faire tout seul. S'il veut faire la louange, s'il veut faire la prédication, s'il veut faire toutes les visites, s'il veut faire tout, la communication, tous les trucs, ça marche un temps parce que chaque église a son rythme de développement, il y a des choses, on commence quelque part mais on vise une destination. Mais si on veut être excellent, il faut laisser les potentiels que Dieu a mis s'exprimer pour que chacun soit excellent dans son domaine. Et comme ça, moi, je peux être excellent dans ma prédication, mon enseignement. Je peux être excellent dans mon pastorat, pendant que d'autres sont excellents, peut-être dans la musique, que d'autres sont excellents dans le ministère d'intercession, et que d'autres seront excellents dans tous les ministères qui vont continuer de s'ajouter et de se développer. Et ça, c'est bien, et c'est important. Donc, visons l'excellence. Et la parole nous montre donc que nous pouvons progresser. Et il est question aussi de travailler de mieux en mieux. Je vous montrerai ça dans 1 Corinthiens 15. Pour montrer que c'est une notion vraiment biblique, hein. C'est pas juste moi qui dis on veut faire mieux que les autres. Je veux faire excellemment ce que Dieu me demande et ce que Dieu nous demande de faire. Et je veux pas qu'on se contente de la médiocrité ou de faire un petit peu ou de faire à moitié. Je veux l'excellence, hein, dans vos vies, mais nous aussi dans ce que nous faisons ensemble ici dans l'œuvre de Dieu. Soyons excellents. 1 Corinthiens 15 et au verset 58. Il dit « Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables et travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Hein, » Donc, il exhorte les gens à travailler de mieux en mieux. Donc, ça doit être aussi notre désir, notre démarche. Je veux faire de mieux en mieux. Aujourd'hui, je fais, je veux faire mieux, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. C'est une perspective que nous devons avoir à l'esprit. Et le résultat, ça va être vraiment de refléter la perfection, de refléter la gloire de Dieu. Un dernier point que je voulais quand même vous mentionner, c'est l'intégrité. L'intégrité. Si on veut être dans une démarche d'excellence, il nous faut être intègre. Être intègre. L'intégrité, c'est être conforme à ce que je suis réellement, dans toutes les circonstances et quelles que soient les conséquences. Ça, c'est important. L'intégrité, c'est je suis conforme à ce que je suis. Je suis conforme à ce que Dieu m'a dit, je suis conforme à ce que je crois. Et ça, quelles que soient les circonstances. Et aussi, quelles que soient les conséquences. C'est pas parce qu'on me dit, tiens, si je mélangeais un petit peu ma position, peut-être que je pourrais accéder à quelque chose. Et nous devons rester intègres à ce que Dieu nous a dit, à ce que sa parole nous dit, quelles que soient les circonstances et les conséquences. C'est-à-dire qu'on va pas se laisser impressionner, on va pas non plus faire comme si, essayer de faire des petits mélanges, des petits compromis. C'est parce que sinon tu n'arriveras jamais. Pour être excellent dans quelque chose, je vous rappelle, il faut se concentrer sur ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a demandé, et le développer. L'intégrité, ça peut aussi désigner le fait d'être entier. Hein, quelque chose qui est intègre, c'est qu'il est entier, il est en un morceau, il est complet. il n'y a pas de détérioration, il ne manque rien. Hein, vérifier l'intégrité d'un objet ou de quelque chose, c'est ça aussi. Et dans l'hébreu, il y a ce mot shalom, qu'on traduit par paix, mais qui en réalité veut dire la paix qui vient du fait d'être entier. Ça veut dire qu'on ne manque de rien, ça veut dire qu'on est une personne intègre. Ce shalom qu'on peut se souhaiter et que d'ailleurs les juifs se souhaitent mutuellement, eh bien c'est cette paix qui vient du fait d'être complet. C'est-à-dire je te souhaite d'être en paix parce que tu ne manques de rien, parce que tu es en conformité entre ce que tu crois et ce que tu dis et ce que tu fais. L'intégrité aussi c'est quelque chose d'important. Et d'être soi-même, d'être vrai. Soyons vrais. Ça c'est aussi un signe d'excellence. Quelqu'un qui est capable d'être lui-même et d'être vrai dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. On n'essaye pas de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. On ne dit pas A à une personne et puis B à une autre personne. On est vrai, on est intègre. Et ça, c'est aussi un signe d'excellence. Et donc, cette démarche d'excellence, ça va nous amener à devenir finalement, comme la parole nous le demande, semblable à Christ et à atteindre sa stature parfaite. Et souvent, on parle de ça et on dit oui, nous sommes appelés à la stature parfaite de Christ, tout ça. Mais pour l'atteindre, il nous faut adopter une mentalité d'excellence. D'excellence. Tu n'atteindras jamais la stature de Christ en restant médiocre. Faut choisir, décider d'être excellent et poser les jalons dans nos vies pour l'atteindre. Alors on va lire ça quand même dans Éphésiens et je vais terminer avec ça. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, on va prendre à partir du verset 11. Il est dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ça, c'est la conséquence d'une démarche d'excellence. Il est question d'être perfectionné, donc on fait toujours de mieux en mieux. Il est question de le faire jusqu'à ce que nous atteignons la stature, donc on ne s'arrête pas en route, on n'est pas médiocre, on continue. Et verset 14, « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, donc soyez vrais, et dans l'amour, nous croîtrons à tous égards dans celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Donc ça résume ce que devrait être une démarche d'excellence et ce qu'elle produit. La démarche d'excellence de chacun d'entre nous et aussi en tant que corps, en tant que famille, en tant qu'église, va nous amener à cette stature parfaite de Christ et à cette manifestation en gloire du royaume de Dieu. Et je vous rappelle cette perspective que nous avons de Ésaïe 60 qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et sur toi la gloire de Dieu se lève. » Mais pour que sa gloire se lève sur nous, nous devons nous engager dans une démarche d'excellence, où nous permettons à sa gloire de se manifester, d'être reflétée et d'agir dans notre vie. Donc voilà l'objectif, refléter sa gloire. Refléter qui il est, nous démarquer dans ce monde pour que le royaume de Dieu puisse être manifesté partout où nous sommes, à travers un esprit d'excellence, à travers des comportements excellents, à travers des paroles excellentes, à travers une démarche d'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Dieu a déjà même préparé les ressources et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse progresser dans cette excellence. Donc désirons être excellents et que Dieu soit glorifié. Ça vous plaît ça comme programme ? Ok, est-ce qu'il y a des gens qui veulent être excellents ici? Amen.